le magazine des Nations Unies.
Heureuse de vous retrouver en ce début de l'année 2013 pour la présentation de la première émission des magazines des Nations Unies de cette année. Et tout de suite, les titres. Près de 300 réfugiés centrafricains fuyant la crise en cours en République centrafricaine sont arrivés à Mombaïmbongo, à l'Équateur, au nord-est de la RDC, selon le Haut Commissariat des réfugiés HCR. Jean-Pierre Elali Coco évoquera toutes ces questions liées à la problématique des réfugiés en RDC avec Germaine Battionneau. Elle est la représentante régionale adjointe du HCR. Le 15 janvier prochain, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Quelles sont les implications sociales et économiques sur les flux migratoires? L'administrateur des relations extérieures de l'Organisation internationale pour les migrations en parle dans quelques instants. Situation sécuritaire en Ituri dans la province orientale. Les FARDC appuyés par la MONUSCO ont délogé plus de 300 miliciens Maïmaï à Mambasa. Les faits vous seront rapportés dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire et maintenant, place à l'actu de la semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Les FARDC ont repoussé les miliciens du territoire de Mambasa dans le district de l'Ituri en province orientale avec l'appui logistique de la MONUSCO. Cela s'est passé le 5 janvier 2013 selon le porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO, le commandant Diéné. Il a annoncé le mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Il revient ici sur les circonstances de cette contre-offensive et les efforts conjugués par les FARDC et la MONUSCO sur le terrain. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Pierre Elali Coco.
Concernant Mambasa, le 5 janvier, 300 Maïmaï, qui serait une coalition entre les Maïmaï Simba de Paul Sadala alias Morgan, mais aussi, on dit même des Maïmaï Lubumba avec l'ex-colonel ou déserteur Hilaire avec ses hommes, qui, il y a quelque temps, ont occupé Pangoy. Donc, ils ont attaqué les FARDC, comme expliqué, repli stratégique, appuyé par les troupes motorisées de la MONUSCO, en particulier le bataillon bengladais. Ils ont fait une contre-offensive qui a été payante. Ce qu'il faut aussi préciser, il y a eu des problèmes logistiques. Il a fallu l'intervention des hélicoptères de la MONUSCO pour réapprovisionner en munitions les FARDC, qui se sont vaillamment battus. Donc, c'est une action conjuguée FARDC-MONUSCO qui a permis... C'est vraiment le prototype même d'exemple d'application du mandat, où nous appuyons des troupes nationales, nous travaillons en bonne intelligence, en toute responsabilité avec eux, et les résultats sont probants.
Pour sa part, le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Mounoubaï, a loué cette collaboration. Il a mis l'accent sur l'engagement de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Il est lui aussi au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Il y a un collègue qui m'a posé cette question. Pourquoi vous êtes battu à Mambasa et vous ne vous êtes pas battu à Goma? Je crois que la réponse est dans ce que le colonel vient de vous dire. À Mambasa, les FARDC ont posé leurs pieds par terre et ils n'ont pas bougé. Ils se sont repliés, mais ils sont revenus et ils se sont battus, comme il a dit, vaillamment jusqu'à reprendre Mambasa. Donc, il y avait des FARDC à soutenir et nous les avons soutenus avec tous les moyens que nous avions conformément à notre mandat. Voilà la différence entre Goma et Mambasa.
Bilan provisoire de ces combats, selon le porte-parole militaire intérimaire, 6 morts et 14 blessés du côté des FARDC, 3 tués parmi les miliciens.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 15 janvier est consacré à la journée mondiale du migrant et du réfugié. Mais à l'initiative de l'Église catholique, cette journée est plutôt célébrée le troisième dimanche du mois de janvier qui tombe justement aujourd'hui. Et en rapport avec cette journée, nous vous proposons un entretien réalisé l'année dernière avec l'administrateur chargé des relations à l'OIM RDC, Sefu Papa Kawaya. Ce responsable de l'Organisation internationale pour les migrations s'était entretenu avec Honoré Missenga Kalala sur le sujet.
Monsieur Sefu Kawaya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur chargé des relations extérieures à l'OIM-RDC. La mission de l'OIM en République démocratique du Congo et sa stratégie 2012-2013, c'est l'intitulé d'une brochure que votre agence vient de publier. Et dans cette brochure, vous dites que le mandat institutionnel de l'OIM repose sur quatre domaines clés de migration. Alors, M. Sefou, d'abord, la migration implique quoi?
D'une manière générale, la migration est une vieille notion, elle est historique. Il suffit pour chacun de considérer simplement la configuration actuelle du monde. On verra bien que la migration a été à la base des déplacements de peuples et que là où ils se trouvent aujourd'hui, les différents peuplements proviennent d'ailleurs. Donc l'implication diffère selon qu'il s'agit du pays d'accueil ou du pays d'origine. Dans le pays d'accueil, il est vrai que la migration pose un problème d'accueil, ça pose un problème de gestion de personnes qui arrivent nouvellement dans le pays, en termes de besoins, de la manière de le placer, le centre d'accueil, et ça peut être également des préoccupations pour le pays. Toujours dans le pays d'accueil, lorsque les gens arrivent et qu'ils ont énormément de besoins, ça peut dépasser la capacité des États. L'OIM, dans ces cas-là, se charge de gérer ces déplacements massifs, tout en n'étant pas exclusivement dans ce qui concerne les réfugiés. L'OIM s'occupe essentiellement de tout ce qui a trait au phénomène migratoire.
Quelles sont les différentes catégories d'immigration?
Il y en a plusieurs. Les deux plus importantes, c'est justement l'immigration et l'émigration. Ceux qui quittent un pays donné émigrent, et ceux qui viennent dans un pays donné immigrent.
Par rapport à ces deux concepts, quel est le rôle de l'OIM?
Le rôle de l'OIM, en tant qu'organisation internationale intergouvernementale, est d'être au chevet des États pour servir de conseil en matière migratoire. Nous avons l'expertise requise à cet effet, et conseiller les États à la manière où il faut gérer les populations pour que la migration soit ordonnée, conseiller les gouvernements pour faire de sorte que les entrées dans les pays soient également ordonnées, que ça se fasse suivant les normes, afin qu'il n'y ait pas d'accroc majeur qui puisse mettre le pays en difficulté. C'est le plus grand rôle que nous jouons partout au monde, et notamment en République démocratique du Congo.
Oui, justement, dans le cadre de sa stratégie par rapport à la RDC, l'OIM parle de migration et développement, migration assistée, migration régulée, migration forcée. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces quatre sortes de migration?
Tout à fait. La migration et développement, c'est-à-dire que l'OIM s'insère parfaitement dans la stratégie mondiale qui affirme que la migration peut être bénéfique pour tous les pays, pourvu qu'elle soit ordonnée. C'est ainsi que nous lions la migration au développement. À titre d'exemple, nous avons un programme qu'on appelle Programme Migration pour le Développement en Afrique, qui est un programme qui met en rapport le besoin en expertise dans les pays avec la présence de cette expertise dans sa diaspora à l'extérieur. Et nous permettons donc des missions de la diaspora dans différentes institutions du pays en vue de les assister et d'amener une expertise qui soit rationnelle, conventionnelle, internationalement reconnue.
Et la migration assistée?
Dans la migration assistée, je peux vous donner un exemple très pratique. Le retour volontaire. L'OIM ne s'accommode pas, par exemple, avec des refoulements. Mais s'il se trouve des gens qui sont vraiment en difficulté et dans des pays étrangers et qu'ils se posent le problème de leur retour dans leur pays d'origine, l'OIM intervient s'il y a volonté de cette personne de pouvoir entrer.
En collaboration avec l'OASR?
Pas nécessairement. En ce moment-là, il n'y a pas collaboration. L'OIM fait ce travail, c'est vraiment dans son mandat. Nous organisons des retours volontaires de personnes qui n'ont plus droit, par exemple, de rester dans un pays et nous organisons pour le faire revenir dans leur pays de manière tout à fait honorable. C'est ça que nous faisons généralement dans le cadre de la migration assistée.
Et dans le cadre de la migration régulée et migration forcée?
D'abord, dans le cadre de la migration régulée, nous mettons à la disposition des États un certain nombre d'outils qui permet aux États de pouvoir bien gérer les migrations. C'est ainsi que l'OIM se félicite actuellement d'avoir mis en œuvre, avec l'appui du gouvernement congolais, plus spécifiquement avec l'appui de la Direction générale des migrations, un programme intitulé « Gestion intégrée des frontières ».
Et moi sur la migration forcée?
La décision de quitter un lieu peut ne pas être volontaire. Elle peut être due, par exemple, à des catastrophes naturelles. Une éruption volcanique peut amener les gens, de masse de gens, à pouvoir quitter les lieux. Mais il y a également des migrations forcées qui rentrent dans les cadres de ce qu'on appelle le trafic des êtres humains. Par exemple, tous ces gens qui font de fausses promesses aux gens, voilà, nous avons une possibilité de travail à l'étranger, nous voulons faire partir des gens, ils font déjà payer à ces gens-là quelques sous. Une fois arrivés sur place, ils se rendent généralement compte que tout ce qui a été promis était tout à fait fallacieux. Et que y a rien de tout ça.
Et ces gens, ils peuvent attendre quoi de l'OIM à ce moment-là?
Lorsqu'il y a de tels cas, l'OIM les traite et organise le retour de ces gens dans leur milieu d'origine.
Oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle la migration irrégulière. C'est quoi?
La migration est dite irrégulière lorsqu'elle n'a pas suivi les normes. Tout départ d'un pays et toute entrée dans un pays est réglementée. Et qu'il s'agit là des dispositions discrétionnaires que chaque pays prend. Lorsque vous devez quitter un pays X, vous devez remplir des conditions requises pour cette sortie, vous, national de ce pays-là. Dans les cas où vous entrez par des voies détournées, et vous n'avez pas de documents, tout ça, vous voyez, ça rentre dans la catégorie de la migration irrégulière.
Dans ce cas-là, on peut se faire expulser.
Ah oui, tout à fait. Le pays a tout à fait le droit d'expulser les gens, mais l'OIM soutient que cela doit se faire en bon ordre. Il existe une convention internationale qui préside aux droits des migrants. Les migrants ont le droit qu'il faut absolument respecter et les pays n'ont pas le droit d'y déroger, étant donné qu'il s'agit là de normes internationalement reconnues que les États ont acceptées et ratifiées.
Nous assistons très souvent à des refoulements massifs qui se font d'une manière pas du tout catholique. L'exemple des Congolais d'Angola qui sont souvent expulsés. Qu'est-ce que l'OIM peut faire dans ce cas-là?
L'OIM peut faire beaucoup et d'ailleurs l'OIM a déjà fait plusieurs propositions à cet effet. Je vous dirai par exemple qu'il n'y a pas longtemps, les chefs de mission de l'OIM, M. Michael Chance et moi-même d'ailleurs, avions fait le déplacement dans les Kasaï, précisément dans les Kasaï occidentales, où nous avons été évalué la possibilité de pouvoir contenir ce genre de fait. L'OIM RDC a également contacté le bureau de l'OIM à Luanda pour qu'ensemble on puisse juguler cela par des pratiques tout à fait conformes à la norme internationale.
Monsieur Sefukaya, merci.
Près de 300 réfugiés centrafricains, en majorité des enfants, ont été identifiés dans la cité de Mobimbongo, dans la province de l'Équateur, selon un rapport d'une mission conjointe composée du HCR, de la MONUSCO, d'OCHA, du PAM et de l'UNICEF. Cette mission s'était rendue à Mobimbongo du 3 au 5 janvier dernier pour évaluer la situation à la suite d'un afflux de ressortissants centrafricains observé avec la crise en cours en Centrafrique. Les membres de la délégation ont saisi cette opportunité pour sensibiliser les autorités territoriales locales et les réfugiés eux-mêmes sur le droit à la protection internationale ainsi que sur le principe de non-refoulement en cas d'afflux de personnes à la recherche d'un refuge en dehors de leur pays. Restant dans le même registre, cette fois-ci à Goma, dans le Nord Kivu, où le HCR a organisé la semaine dernière le premier convoi de cette année pour le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais, un convoi de 45 personnes. À titre de rappel, le HCR a rapatrié 7970 réfugiés rwandais à partir de Goma en 2012. Dans le cadre du partenariat avec la police nationale congolaise, UNPOL a procédé à l'ouverture de la deuxième session de formation en informatique le lundi 7 janvier à Kinshasa. 25 cadres de la PNC en seront bénéficiaires. La première session a eu lieu en novembre dernier et a formé 25 autres cadres de la même institution. Le projet prévoit dans un premier temps au total 8 sessions de formation pour un objectif de 200 cadres formés en informatique.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous vous le disions tout à l'heure, près de 300 réfugiés centrafricains fuyant les troubles politiques dans leur pays ont trouvé refuge à Mobimbongo dans la province de l'Équateur. Une mission conjointe MONUSCO-HCR-UNICEF s'y est rendue la semaine dernière. Objectif, faire le point sur la situation humanitaire de ces réfugiés et étudier les conditions d'une assistance. Germaine Bathionneau, représentante régionale adjointe du HCR, est notre invitée. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco sur la gestion de ce flux migratoire et la protection de ces réfugiés centrafricains.
Madame Germaine Bathionneau, bonjour.
Vous êtes représentante régionale adjointe du ACR. Il y a une mission conjointe avec la MONUSCO et bien sûr l'UNICEF sur la situation des réfugiés centrafricains. Donc cette mission vient de se rendre à Mobaye Mbongo, à l'Équateur. Quelle est la situation humanitaire actuelle sur le terrain?
Okay, merci pour la question et l'entretien. Comme vous l'avez dit, c'est une mission interagence avec la MONUSCO, l'UNICEF, OCHA, le PAM et bien sûr le HCR qui s'est rendu dans la zone de Badolité et de Mobaye Mbongo du 3 au 5 janvier, donc la semaine dernière, pour évaluer effectivement la situation sur le terrain par rapport est-ce que oui ou non des réfugiés centrafricains ont traversé, se sont retrouvés du côté de la RDC. Cette mission a effectivement s'est rendu sur le terrain. Mais c'est aussi bon de préciser pourquoi et comment cette mission s'est rendue sur le terrain.
Je vous en prie, madame.
C'est un peu à la suite des informations reçues, aussi bien par la MONUSCO que les agences qui sont en Bandaka, de la présence de Centrafricains qui auraient traversé. Donc nous avons les autorités administratives de la localité, là-bas, du nord Ubangi, ont appelé nos collègues qui sont au niveau de Libengue et Dongo, parce que avant cette situation, on a déjà reçu des réfugiés dans la zone du sud Ubangi, un peu du côté de Zongo, Libengue. Donc, il y a un contact qui est déjà là, qui a fait que les informations sont parvenues, aussi bien à la MONUSCO qu'à nous, et c'est ce qui a amené les agences avec MONUSCO de se concerter et de décider de cette mission interagence. Donc, elle a eu lieu, ils sont revenus, et il y a eu une mission, un rapport qui a été produit. Ils ont rencontré, bien sûr, les autorités administratives des localités visitées, notamment Badolité, Mobaye Mbongo. Ils ont aussi rencontré la société civile et c'est à la suite de tous ces rencontres et déplacements d'un endroit à un autre que, à la fin, la conclusion a été qu'il y a une présence effectivement de réfugiés centrafricains qui sont arrivés, dont la plupart sont des femmes et des enfants.
Combien sont-ils exactement?
Bon, il faut dire que comme c'est une première mission dans cette zone et la mission n'a pas eu le temps d'aller un peu dans toutes les localités, vous savez que c'est une longue frontière, on parle même de 800 km de frontière entre la RDC et la Centrafrique. Donc ils n'ont pas pu visiter toutes les localités. Mais la localité qu'ils ont pu visiter, notamment celle de Mobaye Mbongo, le peu de temps qu'ils sont restés sur place et avec les contacts et les explications données aux uns aux autres, finalement le constat avec les autorités, la mission a pu évaluer 69 familles d'environ 286 personnes. Donc ça, c'est vraiment la toute première identification qui a été prise. Alors si on parle sur cette base et le fait que les gens traversent à différents endroits, il se pourrait qu'il y ait un peu plus de monde. Et l'idée, les recommandations, c'est justement de voir, de repartir et de trouver une solution avec les autorités pour les personnes qui sont là et qui étaient éparpillées un peu dans les familles. Ce sont les familles, comme d'habitude, qui les ont accueillies. Et par rapport au rapport et aux photos qu'on a pu voir aussi de ces personnes, les besoins sont...
Oui, madame, nous allons y arriver. Donc, lorsque les réfugiés se déplacent comme ça, vous dites que certains sont dans les familles d'accueil. Et est-ce que les ACR a pu recenser quelques besoins sur place?
Oui, là je voudrais pas simplement que vous parliez du HCR, parce que comme je vous ai dit, c'est une mission interagence.
Mais là, on parle plutôt de, en ce qui concerne la mission dévolue au HCR, en ce qui concerne les réfugiés, c'est pourquoi je parlais de ça.
Vous avez raison, mais je voudrais faire la précision que c'est une mission interagence qui est partie, qui a fait un rapport et qui a fait des recommandations. Et la recommandation, c'est au vu du constat qui a été fait par la mission interagence, et maintenant que nous allons faire une suite. C'est-à-dire que la recommandation voudrait qu'il y ait un renforcement, justement, du système d'identification et peut-être de vérification, de voir avec les autorités, est-ce qu'on a plus de monde à Mobaye Mbongo, est-ce qu'on a plus de personnes qui ont traversé, et puis travailler avec les autorités administratives compétentes. C'est-à-dire qu'une autre mission de suivi est prévue la semaine prochaine, justement pour que le HCR et ses partenaires maintenant aillent un peu plus de l'avant par rapport à quelle assistance il faut apporter à ces personnes qui ont été identifiées. C'est à peu près la même chose, c'est l'appui par rapport à la santé, parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, et puis les informations recueillies disent que celles qui ont traversé avant la mission y étaient depuis 2 semaines. Donc c'est un peu dans des difficultés, dans des situations assez difficiles, les besoins quotidiens, en vivre, etc., etc. Sans compter que il y a aussi la mission à identifier des personnes, des enfants. Ils ne sont pas nombreux, mais mais qui ont été séparés de leurs parents. C'est-à-dire que peut-être dans la fuite, les parents sont allés d'un autre côté, les enfants aussi. Et il y a des enfants qui ont traversé ceux qu'on appelle les enfants séparés, non accompagnés. Mmh. Et donc tout ça, maintenant que cette situation globale a été présentée, il faut aller l'étape après, c'est de justement voir quels sont les groupes, les besoins spécifiques et ensemble avec les autorités, voir ce qu'il y a lieu d'apporter comme assistance.
Oui, si je comprends bien, c'est que les besoins ne sont pas encore identifiés formellement. Et maintenant, lorsque les enfants fuient comme ça, ce sont des enfants non accompagnés, il y a aussi d'autres réfugiés. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont d'une façon ou d'une autre annoncées à ce niveau ou bien qui sont prévues?
Ce ne sont pas les premiers réfugiés que la RDC reçoit. Donc, il y a une politique pour tout ce qui est de l'asile et de la protection de l'assistance des réfugiés dans le pays. Il y a la loi de 2002 qui décrit le cadre légal d'assistance. Par conséquent, avec la structure compétente, c'est ce que nous allons faire. Parce que, effectivement, les informations, c'est de voir au niveau de des frontières, des points de passage, les responsables administratifs qui sont au point de passage accueillent et savent que ces personnes recherchent, fuient une situation d'insécurité et recherchent la sécurité de ce côté-ci. Donc c'est déjà ça. L'État a ses structures compétentes pour veiller à cela. Nous y allons pour voir effectivement que la politique d'asile déterminée par le gouvernement en fonction de la convention sur les droits et responsabilités du réfugié sont respectées et qu'il n'y a pas refoulement. Que si on doit les assister, il faut les assister loin de la frontière. On ne peut pas rester à 2 kilomètres de la frontière et mettre un programme en place. Nous avons transféré environ 500 personnes dans la zone de Orobé à Zongo, mais ce transfert aussi est volontaire. Est-ce qu'on aura besoin de faire la même chose au niveau de Badolité? On ne le sait pas encore, mais on fait cette deuxième mission pour justement, ensemble avec la CNR et les autorités administratives des localités qui seront visitées.
Oui, vous parlez des Zongo, madame. Est-ce que dans la mission de suivi que vous allez organiser, que vous allez visiter aussi Zongo sur place pour faire le point de la situation pour les réfugiés qui sont là?
Zongo, on n'a pas besoin de visiter, il y a un programme qui est en cours.
Ok, il y a un programme en cours.
Le programme est en cours à Zongo, donc il y a un système qui est en place. Comme je vous ai dit, les 500 et quelques personnes qui ont accepté d'être transférées sont assistées avec les autorités. C'est un programme qui est en cours, on n'a pas besoin de visiter.
Quels sont les partenaires avec lesquels vous allez travailler, par exemple?
Oui, par exemple, la mission interagence, il y avait l'UNICEF. Le cadre de ce programme d'assistance, et comme on le fait partout dans le monde avec l'UNICEF, on va travailler avec eux pour justement la situation des enfants et des enfants séparés. On le fait et pour tout ce qui est vivre, parce que c'est la mission conjointe aussi a eu lieu avec la participation du PAM. Donc chacun va jouer son rôle dans son domaine d'expertise et de compétences. Et c'est tous ces efforts conjugués qui vont apporter la solution à la situation des réfugiés.
Oui, Madame Germaine Bationo, je vous remercie.
Merci beaucoup.
À la MONUSCO Kinshasa, la campagne de sensibilisation au mandat de cette mission amorcée en décembre dernier par la direction de l'information publique s'est poursuivie cette semaine dans quelques coins de la capitale, notamment à Biboua dans la commune de Lanselé et à Mbindiaozon dans la commune de Ngaliema. À Mbindiaozon, c'est au siège de l'Association des Nations Unies pour la RDC que cette session a eu lieu mercredi dernier. Honoré Missenga Kalala était dans la suite de la délégation onusienne.
C'était plus un échange qui a permis aux participants de poser toutes les questions, notamment sur le mandat de la MONUSCO, son rôle dans la crise des Goma et la justification de sa présence en République démocratique du Congo. Et au sujet du mandat et de la présence de la mission, Madame Marceline Comland de la section Outreach précise.
Il est important de comprendre que les Nations Unies en RD Congo n'imposent rien. Nous ne sommes pas ici pour imposer quoi que ce soit. Le Congo est un État souverain. Il est important de retenir que pour nous, pour les Nations Unies, nous sommes ici pour appuyer le gouvernement. Le mandat que nous exécutons actuellement a été fait en collaboration avec les autorités nationales.
Il n'y a pas eu de questions taboues. À la fin d'un débat qui a duré plus de 2 heures, un participant s'exprime.
Ce que j'ai retenu, la MONUSCO telle qu'elle fonctionne actuellement, elle a d'autres missions importantes telles que la protection des civils, le respect des droits de l'homme, la lutte contre le sida, même dans le cadre du développement aussi. C'est la raison pour laquelle je me suis même retenu de poser la question de savoir pourquoi ils sont ici à l'ouest alors qu'il y a la guerre à l'est. Donc la mission n'est pas seulement de pouvoir combattre, d'ailleurs s'ils sont là pour la protection de la population partout, parce que les abus des droits de l'homme ne sont pas seulement à l'est, ils sont un peu partout, même ici à Kinshasa. Alors cela, ça m'a permis de justifier leur présence à l'ouest comme partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui. J'aimerais que le mandat puisse changer, si ça peut changer, pour que ça devienne une force d'imposition, d'interposition, ça serait intéressant parce que vouloir consolider la paix, il faudrait que la paix soit là. Aussi longtemps qu'il y a des guerres, on ne saura pas consolider la paix. Donc, qui est la paix? Et à ce moment-là, on peut la consolider. Et c'est ça le souhait de tout le monde, de toute la population.
Ferrare, la bourgmestre d'Engalema a été présente à cette séance et n'a malheureusement pas eu le temps de participer au débat, appelé ailleurs pour une urgence dans un coin de sa juridiction. Mais avant de partir, la bourgmestre a émis le vœu de voir les organisateurs de cette campagne élargir leur public cible et impliquer les autorités territoriales locales pour une meilleure coordination des rencontres.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Donna Mounia Okubonera. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis licencié en sciences économiques et de gestion de l'université ouverte SIDEP et cela après mon graduat à l'université de Kinshasa, mes humanités littéraires au petit séminaire de Mugeri à Bukavu et mes études primaires à l'école Lumumba de Bagira, toujours à Bukavu. Je suis dispatcheur à la MONUSCO depuis 2004, soit près de 9 ans. Je m'occupe de la supervision du transport de tous les personnels de la division publique de l'information publique. Journalièrement, je m'occupe du transport aller comme retour de tous les staffs. Je m'occupe de toutes les courses de reportage de tous les journalistes et les autres courses des autres superviseurs, administration technique, en rapport avec les intérêts de la radio. Avant que je me retrouve à la MONUSCO, j'ai travaillé chez des privés, 87-88, comme gérant aux établissements PACO et comptable chez des Libanais. En 89, je suis recruté à la Marsavco, une filiale du groupe Unilever, comme vendeur, autrement dit délégué commercial. Et après une formation au Kenya, je me retrouve vendeur itinérant. Et en tant que vendeur itinérant, je me suis retrouvé dans le Nord Kivu, à Goma, dans l'Équateur à Gemena et dans le Kasaï Oriental en Mbujimayi. Le temps libre, présentement, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a 10-15 ans, on pouvait avoir un peu de temps libre. Et on le dispatchait entre les sports, quelques visites familiales puisqu'on pouvait avoir des cadeaux à leur offrir et éventuellement quelques sorties avec les enfants pour le resto, pour la piscine. Et nos préférences, il n'y en a pas vraiment, si peut-être se retrouver devant la télé et quelques moments quand les moyens le permettent, autour d'un verre avec les amis. Les projets d'avenir, mais c'est un peu compliqué, sans possibilité d'épargner ou de faire des économies. Quel projet d'avenir ambitieux pouvons-nous avoir? Aucun. Seulement après les Nations Unies, si nous ne nous aurons pas encore trouvé une issue politique comme Dequin le prépare, peut-être tout simplement nous nous retrouverons à aller terminer notre retraite au village en train de faire les champs, pas d'une manière artisanale, et autour de calebasses de Butunda, notre boisson indigène, avec quelques notabilités, et on pourra se la couler douce et la fin de la vie, quoi.
magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Crispin Motal. Ma question s'adresse au PAM. Comment le PAM organise-t-il l'opération de distribution de l'aide humanitaire, surtout des vivres, en période de crise? Merci.
Crispin, nous avons contacté au téléphone Claude Kalinga. Il est chargé en communication au PAM RDC. Il répond à votre question.
Pour votre question, le PAM, comme le stipule le premier objectif, c'est sauver des vies dans des situations de crise. Donc dans notre pays, par exemple, avec tout ce qui se passe à l'Est, le PAM est appelé à voler au secours des milliers de personnes qui ont fui leur village. En amont, il y a d'abord des préparations aux situations d'urgence. Ce qui a lieu ne surprend pas le PAM. Le PAM s'y prend déjà notamment à travers la planification des interventions. Et là, le PAM analyse d'abord les données d'alerte. Et dès que les analyses sont faites, il y a des scénarios et le PAM intervient quand arrive une situation d'urgence. Et évidemment, le PAM intervient à travers de partenaires des coopérations et à qui le PAM remet le vivre et ils vont pour distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. De partenaires, ce sont des ONG internationales et des ONG nationales qui ont signé un contrat avec le PAM et ce sont eux qui vont sur le terrain pour distribuer les vivres aux plus vulnérables. Au tout premier jour des déplacements, lorsque les gens partent, la première chose du PAM, c'est de pouvoir accéder à ces populations si la sécurité le permet. Et le premier vivre à distribuer, ce sont des biscuits, disons, des biscuits très vitaminés. Donc après, suivra les distributions ordinaires, notamment le farine de maïs fortifié, il y a les haricots, il y a le petit pois, il y a l'huile, il y a le sel. Donc ce sont là, en gros, les vivres que le PAM met à la disposition des personnes vulnérables.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un rendez-vous à retenir à partir de ce lundi 14 janvier 2013. C'est la vente aux enchères publiques des matériels réformés à laquelle va procéder la police sénégalaise de la MONUSCO. À Kinshasa, la liste de ces matériels est affichée au quartier général de la MONUSCO, à Alcatel, à Incal, à Utex et à Cotex. Et pour Kinshasa, la fin de soumission est fixée au 20 janvier et le dépouillement au 21 janvier 2013. À Mbujimaï, au Kassai oriental, la fin de soumission intervient le 22 janvier, le dépouillement le 23 janvier. Enfin, à Kananga, au Kassai occidental, la date de soumission est fixée au 4 février, la fin de soumission le 12 février et le dépouillement le 13 février 2013. À titre indicatif, cette liste comprend notamment des camionnettes, des bus, des citernes carburant, ainsi que des citernes à eau. C'est la fin de cette 50e édition du magazine des Nations Unies et la première de cette année 2013. Si vous l'avez aimé, sachez qu'elle est le fruit d'un travail en équipe supervisé par Nikon Ngaka. Jean-Pierre et Lali Coco l'a coordonné, Honoré Missenga était au reportage et c'est moi, Mila Kimbini, qui vous l'a présenté avec l'assistance technique de Guiman Zangou. Vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h de Kinshasa, soit une heure de plus à Lubumbashi, dans le Katanga et dans tout l'est du pays. Une émission que vous pouvez également réécouter sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, postez un commentaire sur le site internet ou encore appelez-nous au 082 30 76 630. Excellente journée dominicale à tous.